Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Bruit du monde par principe actif.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Les Bruits du Monde, l'émission qui prête une oreille attentive au brouhaha, aux musiques et à la poésie de notre vaste monde. Vous écoutiez à l'instant Mulatu Astacté et le titre MNT. Ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous sommes en Éthiopie. Pour ce nouveau périple, je serai accompagné par Lord Lorenzo. Bonsoir à vous.
Bonsoir Lord Mignon.
Et pour nous guider, nous nous sommes permis de solliciter un spécialiste des musiques éthiopiennes. Lord Lorenzo, je vais vous laisser nous le présenter.
Alors, quelques lignes. On a été l'interviewer hier soir à son domicile. On ne le présente plus pour les amateurs de musique éthiopienne. C'est Francis Falsetto. On le présente souvent comme un musicographe. C'est un terme qu'il réfute et préfère celui de music lover. C'est un garçon qui se tourne volontiers plutôt vers l'exception que vers la règle. À l'exemple des trésors oubliés de la musique éthiopienne moderne qu'il est parti exhumer au milieu des années 80 à Addis et dans les régions d'Éthiopie. Nous, on le considère comme un chercheur d'or qui ramène depuis 20 ans de nombreuses pépites, dont celles qu'on écoute, Mulatu Astacté, avec lesquelles nous allons passer une heure. Des musiques très enivrantes, très sensuelles. C'est celle d'un pays en quête de divertissement et d'une Afrique libre et indépendante. Mais avant d'attaquer la programmation sur les musiques éthiopiennes modernes, on va laisser Francis Falsetto justement se présenter en tant qu'ancien programmateur du confort moderne à Poitiers.
Ah bah, tout a commencé là, le confort moderne à Poitiers, c'est non seulement le premier lieu de ce type en France, ce qu'on savait nous-mêmes pas, ça a commencé, que je dise pas de bêtises, l'association elle-même qui faisait des concerts, qui s'appelait l'Oreille Hardie, qui s'appelle toujours l'Oreille Hardie, a commencé en 77, et on a commencé à réfléchir et à mettre les premières bases du confort moderne en 83. Ça fait plus de 30 ans maintenant, et ça existe toujours. Et donc, notre programme, ce qui à l'époque se faisait pas, n'était pas la mode, c'était aussi bien de la musique, du free jazz, de la musique improvisée, des musiques électroniques, que des musiques du monde, traditionnelles ou modernes. Pour nous, il n'y avait aucune contradiction. On n'avait aucun problème. Alors qu'à cette époque-là, peu de gens avaient dans leur discothèque personnelle, je sais pas, un disque de musique pygmée, un disque de Youssou N'Dour, disons, et de Sonic Youth ou de gens comme ça. Parlant de Sonic Youth, on a fait le premier concert en France de Sonic Youth en 83. Et j'en passe, hein, Glenn Branca, Les Résidents, ouais. Killing Joke, par exemple. Voilà, on écoutait aussi bien Killing Joke que de la musique pygmée. On n'avait aucun problème avec ça. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment la norme. Enfin, sauf à Évreux, apparemment. Mais il y a de la belle musique partout, quoi. C'était ça, nos critères, quoi. C'est-à-dire qu'on aimait ce qui était beau, quoi. Voilà.
Et puis, il y a cet esprit pionnier aussi, quand même. Il y a cet esprit pionnier entre le confort moderne dans les années 80 et puis après la découverte des Éthiopiques à travers, entre autres, Mahmoud Ahmed.
Ah, ça, c'est complètement Poitevin. C'est un ami à nous, Bernard Gallaudet, qui était le responsable technique du théâtre de Poitiers, avec lequel on n'avait pas les meilleurs, enfin, on n'avait pas les meilleurs rapports du monde avec le théâtre, nous étant association en 1901, un petit peu teigneuse. Mais lui, il se trouve qu'il avait été en Afrique, comme régisseur d'une troupe de théâtre, je crois, oui, qui était passé dans tous les centres culturels français en Afrique et qui était passé à Addis Abeba et avait acheté un disque de Mahmoud Ahmed, un LP, Remé Lamela. Et un soir, il atterrit dans nos mains, il nous le prête et on écoute ça et on tombe à la renverse. Et on était quand même assez connaisseurs en plein de musique africaine, mais ça, on n'avait jamais entendu. Donc, on adore ça tout de suite et on s'est pas trop si c'est connu ou pas connu. Donc, on fait des cassettes qu'on envoie à nos potes journalistes, à Libération, à Actuel, le Matin de Paris à l'époque et quelques autres journaux comme ça, et qui nous répondent par retour du courrier, mais c'est quoi ce truc-là, c'est génial, vous en avez d'autres, ça vient d'où, qu'est-ce que c'est? Donc, on a compris que c'était super musicalement et inconnu. Et nous, c'était à peu près nos critères de programmation. C'est beau, c'est pas connu, on va le faire. Parce que quand on a fait Sonic Youth, ils avaient publié un LP à l'époque, hein, 83, je rappelle. Donc, c'était la tendance, c'était ça, qu'on était plutôt des défricheurs, parce que d'abord, ça coûtait moins cher d'inviter des gens pas connus, pas célèbres, plutôt que d'inviter des têtes d'affiche. Ce qu'on faisait aussi parfois, bien sûr. On se l'interdisait pas, mais on était tous des music lovers absolus, quoi. Très méchants, avec... écoutant énormément de musique, se prêtant les cassettes, les disques, qu'on faisait circuler beaucoup, c'était une bande super active, quoi. Et cette bande, elle a essaimé, je veux dire, bon, moi, j'y suis plus depuis très longtemps, mais je suis toujours en relation avec le lieu, avec les gens qui y sont. Même si je comprends pas trop ce qu'ils font aujourd'hui, ça me dépasse un petit peu. C'est une histoire de génération, je veux dire. Moi, j'ai presque 70 balais, donc je suis plus tout à fait un rocker ou un beatnik. Enfin, vous voyez. Mais ça m'intéresse toujours, quoi. J'écoute toujours énormément de musique. J'écoute pas.
Il y a quelque chose qui est assez fort, Francis Falsetto. C'est ce goût, ouais. Les scènes en effervescence. Vous me parlez de Sonic Youth, les débuts de Sonic Youth. C'est une scène en pleine effervescence dans le New York des années 80. C'est la même. Enfin, les musiques éthiopiennes, c'est 69-75, hein, pour l'âge d'or.
La publication des vinyles, quoi. C'est une histoire dans l'histoire. Mais la musique moderne éthiopienne. Ce que moi j'appelle l'âge d'or de la musique éthiopienne, c'est les 20 dernières années du règne de Haïlé Sélassié, c'est-à-dire entre 1955 et 1974. Il a été détrôné en 74. Bon, ça s'est pas fait en une nuit, mais disons qu'en 76, 77, c'était plié, quoi, parce que couvre-feu, censure, prison, et quelques autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la politique et un changement de régime, comme par exemple l'irruption des cassettes, qui ont permis tout de suite le piratage énorme, alors que on pouvait pas pirater des vinyles, et puis la censure évidemment, et puis aussi l'arrivée des synthés, des claviers électroniques. Comme le nouveau régime révolutionnaire a dissous tous les orchestres institutionnels, parce qu'avant c'était quasiment pas possible de faire des Beatles éthiopiens ou des Rolling Stones éthiopiens, c'était l'orchestre de la garde impériale, l'orchestre de la police, l'orchestre du théâtre Haïlé Sélassié, l'orchestre de la municipalité d'Addis. Donc le nouveau régime à partir de 74 a dissous tous ces big bands, parce que c'était des big bands monstrueux avec des sections de cuivre insensées.
Et à ce moment-là, sont devenus disponibles relativement facilement les premiers claviers électroniques. Et ils ont cru qu'avec un synthé ou des orgues un petit peu qui préfiguraient les synthés d'aujourd'hui, ils ont cru qu'ils allaient remplacer les big bands. Mais pas question, non, évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas la même musique. Donc voilà pourquoi j'ai fait une fixette un petit peu sur la musique de cette époque-là, parce que c'était des vrais musiciens qui c'était énorme, quoi. Anchi ye e hodi ye ene shali shalo yo tebe muru ya chinobi ya lo kipushi na lo di masibi di shalo anchi matra kinyi ne shali shalo fikir na ule sauli jimin gizi Yale ayen so garmoten daiseke anchi ye hodiye ene shali shalo yo te bemuru ya chino biyalo ke hone linkali shi anche te kepere mele maile wutanyi kemot bestekere Shagger, in the water, the nana, brennan, you chagger, Anchi, ye, hodi, ye, any shaddy shadow, you tebe mudu, ya, chinobi, ya, lo. Ulun and Gamito, Kifundi, metapin, tede, I to me. Matra gini ne shali shalom anchi ye hodi ne shali shalom yo tebe mulu ni anchi no biyalo kifushina lo di masibi li shalom anchi matra gini ne shali shalom Sauliji min gizem ye mitem Yehenden ya woku katwale lewetem Anchi ye hodiyem Ene shali shalom Yote bemulu ya chinobi ya lo Mashinla te pagi yuna like mama Aini shinaire na unagare nyaoma Aini shimbaini la yargashu bisember Ahombe manda nyatikepe inepe Anchi ye hodiye Ene shali shalo Yotebe mudu ya chinobi ya lo Anchi matra kinyi ne shali shalom Anchi ye hodiye ene shali shalom Yo tebe mudu ya anchi no biyalo Nichegen anchi ye hodiye ene shali shalom Yo tebe mudu ya anchi no biyalo Thank you.
shadi shadu tebe mulu ya chilo ya anchi ye boliye eni shadi shadu yo tebe mulu ya chilo ya anchi ye boliye eni shadi shadu yo tebe mulu ya chilo ya mela 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 mela
Et c'est là que tout a commencé pour Francis Falsetto à l'écoute de Mahmoud Ahmed. Ce morceau, c'était Anchillé, il est extrait de Almaz, le sixième volume des Éthiopiques hébergés chez Bouddha Musique. Les bruits du monde, par principe actif.
Et puis on va continuer notre échange que nous avions hier soir avec Francis Falsetto, chez lui, fondateur des Éthiopiques, qui nous en dit justement un petit peu plus sur pourquoi, comment cette collection de plus de 30 disques maintenant s'est créée, les Éthiopiques, avec Francis Falsetto.
Comment dire, mon but premier, c'est que je suis atteint d'une maladie assez grave, c'est-à-dire quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le partager. Et donc j'ai fait les pieds et les mains et j'y ai passé plus de 10 ans avant d'y arriver, pour trouver les ayants droit des productions vinyliques des années 60 et early 70s. Et j'y suis arrivé, au grand étonnement de la plupart des Éthiopiens. Et même, j'essaie aujourd'hui de faire en sorte que cette collection soit disponible en Éthiopie, fabriquée en Éthiopie, à des prix éthiopiens, et vendue en Éthiopie à des prix éthiopiens. Eh ben non, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a une force d'inertie locale qui est si forte que, ok, tu peux faire ça à l'étranger, mais nous, on n'arrive pas à le faire ici. Mais ça s'arrête là. J'ai jamais voulu intervenir activement dans la production, par exemple. J'ai toujours refusé de produire un artiste éthiopien en Éthiopie. Ça m'est arrivé un petit peu à l'étranger, mais sur un mode extrêmement mineur. C'est pas du tout... Je veux pas je suis plus un observateur et un historien de la musique que une sorte de prétendu magicien qui va dire à ces pauvres sous-civilisés mais je veux vous rendre célèbre. Non, je suis pas du tout dans ce trip-là. Et je suis extrêmement critique de tout ce qui s'est produit en soi-disant world music en Europe et aux États-Unis depuis 20 ou 30 ans. Tous ces producteurs plus ou moins blancs qui expliquent aux musiciens africains, par exemple, qu'ils vont les rendre célèbres sur le marché international en leur coupant les ailes ou en leur arrondissant les ailes ou en arrondissant les angles. Enfin, je suis pas du tout dans cette... Et je suis pas non plus un fan absolu de la tradition. La tradition, pour moi, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose d'arrêté. C'est quelque chose qui est subverti en permanence, qui est dynamique, qui bouge, qui évolue. Comment ça se fait que c'est un étranger qui a rendu célèbre cette musique en dehors d'Éthiopie? Pour faire court, c'est parce que les Éthiopiens pensent que, pour eux, la musique, c'est d'abord les paroles. Et si vous ne parlez pas la langue, ou plutôt les langues qui sont parlées en Éthiopie, vous ne pouvez pas aimer la musique. Ma grande fierté, c'est d'avoir démontré qu'ils avaient tort. Avec cette idée de la culture éthiopienne réservée aux Éthiopiens, à aucun moment ils auraient pu penser exporter ça. Puisqu'on est censément, nous, étrangers, ne comprenant pas la langue, pas capables d'aimer la musique. C'est une absurdité, selon nous, mais c'est ça qui fait que c'est tombé sur moi, par hasard, mais c'est tombé sur moi. Ceci explique aussi qu'il n'y a pas une très grande tradition de musique instrumentale en Éthiopie, même s'il y en a. Alors, c'est quand même Oulatou Astatke qui, un des premiers, a développé la musique instrumentale. Et donc, ça explique aussi pourquoi beaucoup de musiciens étrangers se sont intéressés à la musique de Mulatu, parce qu'elle était toute cuite, instrumentale. Mais sinon, le répertoire utilisé ou développé par les orchestres étrangers qui jouent de la musique éthiopienne, ils peuvent reprendre des chansons de Mahmoud Ahmed, d'Ali Mayo Echete, de Tlaoun Gesese, enfin des grands chanteurs, des grandes voix éthiopiennes, ça leur pose pas de problème. Mais ils s'intéressent pas, ils peuvent pas s'intéresser aux lyrics, même si je fais de maigres efforts pour donner dans les livrets des CD le contenu des paroles. Mais c'est difficile à traduire, parce que c'est presque toujours des histoires d'amour, mais on peut donner deux versions de cette histoire d'amour. C'est là où les protestes se glissent le plus souvent. Mais moi je parle pas couramment la langue, je la bégaye un petit peu. Donc c'est difficile. Mais je pense que la musique, ce que nous on appelle musique, les mélodies, les arrangements, la brillance instrumentale, les grands solistes, tout ça, ça suffit pour aimer cette musique. On n'est pas obligé de comprendre la langue, quoi. Mon premier disque publié en 86, le RML Lamela, c'était encore un vinyle à l'époque, il y avait pas. C'est sorti en CD plus tard. C'était le premier disque de musique éthiopienne moderne sur le marché en dehors d'Éthiopie. Alors que, pour des raisons historiques, le fait que la France est un pays colonisateur, on connaissait la musique du Mali, du Sénégal et d'un tas d'autres pays, et aussi tous les pays de colonisation anglaise, il y avait des disques qui arrivaient à Londres, tout ça. Les 3-4 grandes colonisations, français, anglais, belge, portugais, donc c'est les 9/10 de l'Afrique. En fait, on avait de la musique de ces pays-là, même sur un mode extrêmement mineur, ça passait pas sur les grandes ondes. Mais l'Éthiopie, jamais colonisée, occupée 5 ans par Mussolini, tu vois, c'est pour un pays qui revendique 3000 ans d'existence, ça compte pas. Eh bien, il y avait rien. Il y avait 5-6 disques de musique super traditionnelle, enregistrés par des musicologues obscurs mais brillants. C'est tout ce qu'il y avait sur le marché, c'était dur à trouver. Musique moderne, nib. We'll be right back.
Le Walias Ben Musicawis Slit, il est extrait des Ethiopian Grooves, The Golden 70s. On sent les influences des années 70 de cette excellente collection éthiopique.
Les bruits du monde, par principe actif.
Quels yeux vous avez portés la première fois sur l'Ethiopie? Quel regard vous aviez à ce moment-là?
Oula, je suis tombé par hasard sur cette musique en mai 1984. En avril-mai 1985, mes amis de l'Oreille Hardie, cette association 1901 de Poitiers, m'ont délégué pour aller chercher Mahmoud Ahmed. J'étais totalement ignorant de l'Éthiopie. J'avais même pas les clichés qui vont arriver un peu plus tard. Ça arrive en octobre 84 qu'on commence à parler de la famine et tout ça. J'étais même jamais allé en Afrique. Par contre, ça m'était à moi ou à des collègues arrivé plus d'une fois d'aller chercher des musiciens ici ou là. Donc je pars en 85 en Éthiopie une semaine pour mettre sur pied une tournée de Mahmoud Ahmed et d'un orchestre. Mahmoud Ahmed, Moulatou Astatke et un orchestre. Je débarque là-bas, au milieu d'une dictature, avec fouilles corporelles partout où vous allez, interdiction de sortir de la ville, couvre-feu qui existait. Il faut dire aussi que dans ce pays, c'est aussi un des facteurs qui a écrabouillé le développement de la musique, c'est de 74 à 92, il y a eu un couvre-feu continuel. Imaginez Évreux, par exemple, je parle même pas de Paris ou d'autres grandes villes. Imaginez Évreux, où pendant 18 ans, il n'y a plus personne dans les rues à partir de 8h du soir. Parce que d'abord, la nuit tombe très tôt là-bas, c'est près de l'équateur, mais surtout parce que dans les bons jours, si j'ose dire, de minuit à 6h du matin, couvre-feu absolu. Si on vous voit dans la rue, là, vous êtes descendu. Donc, pas de vie nocturne, etc., etc. 18 ans, ça en fout les gens, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que c'est qu'une dictature, couvre-feu. Donc, c'était bizarre comme atterrissage, quoi. Donc, pour le faire très court, rien n'a pu marcher. J'ai eu affaire à une bureaucratie abominable, des intimidations abominables. Trois fois comme ça. Mais bon, je suis assez résistant, j'y suis retourné. Mais j'ai vite compris que les choses deviendraient possibles quand ce régime tomberait. Et c'est ce qui est arrivé. Quand il est tombé en 91, très vite, d'abord j'ai couru en Éthiopie un mois après la chute du régime, et j'ai vu tout de suite ce qu'étaient les changements, même si le couvre-feu n'a pas été annulé tout de suite, hein. Donc c'était assez spécial, quoi. J'étais un pecno, un ignorant qui allait dans un pays. J'avais même pas de préjugés. Mais entre-temps, entre avril 84 et avril 85, à partir de octobre 84, on a commencé à parler de la famine en Éthiopie. Et donc là, vous avez eu tout le We Are the World, tous les gens en Angleterre, y compris en France, Renault et compagnie, qui ont commencé à faire du fundraising pour donner de l'argent. Oh, ça a compliqué ma vie complètement. Parce que les clichés dans la tête des gens n'allaient pas s'effacer comme ça. Imaginez par exemple qu'Addis Abeba, c'est à 2500 mètres d'altitude. Les gens se figurent que les Éthiopiens vivent dans un désert où ils crèvent de faim. Donc, c'est un pays qui est deux fois grand comme la France, et les deux tiers sont au-dessus de 1000 mètres. Enfin, ça commence là, les préjugés, les clichés, les erreurs de jugement, et tout, et tout. Donc. Et même aujourd'hui encore, beaucoup de gens, sous nos latitudes, se figurent que l'Éthiopie, c'est un pays, c'est un désert où on crève de faim, quoi. Encore aujourd'hui. Et c'est quasiment impossible de vendre un projet de documentaire à n'importe quelle télé. Ce qui les intéresse d'Éthiopie, c'est pas du funk, la musique, la joie, les gens qui font la fête. C'est des horreurs. Là, c'est vendeur, mais bon, c'est comme ça. Il a fallu, ça a un peu parasité mon travail. Mais faut faire avec. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a plus dynamisé qu'abattu, quoi. Je trouve absolument scandaleux qu'on ait encore ces images dans la tête, que les télévisions les perpétuent, les médias les perpétuent en général, même, encore une fois, s'il faut être critique avec l'Éthiopie. Ce genre de contradiction entre la réalité profonde de l'Éthiopie et la vision que nous en avons à l'étranger, c'est absolument révoltant. Et donc, moi, ça m'énerve plutôt et j'ai envie de me battre pour un petit peu transformer ça.
Mariam Kidane, formée au sein, comme l'expliquait bien Francis Falsetto, au sein du Police Orchestra d'Asmara. Alors, on retrouve la sensualité et l'esprit de liberté qui est propre aux musiques éthiopiennes modernes. Un morceau purement instrumental pour un pays qui est très attaché à la force lyrique du répertoire, pourtant.
Est-ce qu'à l'époque c'était facile de circuler, qu'on soit éthiopien ou français par exemple, pour rentrer ou sortir d'Éthiopie pour des concerts ou quand vous les faites jouer à Poitiers par exemple la première fois, est-ce que c'est facile ?
Il y a deux choses. Il y a d'abord l'époque impériale où c'était pas impossible de sortir d'Éthiopie et d'aller visiter l'Éthiopie. C'était relativement ouvert. Mais du moment où la révolution s'est installée, à partir de 1974, là, ça, on a changé du tout au tout. Ça a été vissé, c'est une prison entre des frontières. Les premières fois où mes amis de Poitiers et moi-même, on a voulu inviter des artistes éthiopiens en France, c'est-à-dire, je parle là de 1985, il fallait un visa de sortie pour n'importe qui. Alors imaginez, on est dans un système semblable en France, et pour aller en Suisse ou en Norvège, il faut que vous demandiez un visa de sortie. Et évidemment, on ne va pas vous le donner. Donc ça a mis des années avant que ça se réalise, parce que je me suis heurté 3-4 fois à des refus du gouvernement éthiopien révolutionnaire qui ne voulait envoyer à l'étranger que des artistes qui étaient à la solde de leur régime, qui vantaient comme le socialisme éthiopien est beau et tout et tout et tout. Donc tous ceux qui m'intéressaient, évidemment, ne chantaient pas ce genre de choses-là. Donc ça a mis un petit peu de temps. Le mot croisade n'est pas un bon mot, mais je dis souvent qu'il faut être masochiste pour bosser en Éthiopie. Même aujourd'hui où ça a quand même beaucoup changé, en dépit des remous actuels qui sont très graves, disons-le, la situation aujourd'hui est autrement plus ouverte qu'elle n'était entre 1974 et 1991. 1991, c'est la date à laquelle ce régime révolutionnaire est tombé. Bon, tout n'est pas rose aujourd'hui, mais on peut circuler en Éthiopie, on peut se rendre en Éthiopie, on peut inviter des artistes éthiopiens ou des amis éthiopiens. À la limite, ce sont davantage les ambassades européennes qui mettent un obstacle, qu'ils ont peur qu'il y ait des immigrés éthiopiens partout.
On va retrouver évidemment Francis Falsetto tout au long de cette émission. Et là, plus précisément, nous expliquer son travail, la nécessité pour lui de contextualiser la musique et une démarche proche de l'ethnographie, l'ethnomusicologie.
Moi, j'ai besoin de contextualiser la musique, de donner son contexte plutôt. Pour les musiques qui sont publiées dans l'Éthiopie, de dire dans quelles conditions politiques elles ont été faites, dans quelles conditions sociales, avec quels interdits. Et aussi trouver de l'iconographie d'époque, qui parle souvent plus que toutes les plus belles phrases. Et même pour la musique traditionnelle, le DVD que j'évoque là, c'est des images magnifiques, c'est souvent de la belle musique, on ne sait même pas de quelle région ça vient, si c'est pur et dur, ou si c'est atteint d'un tas de virus, d'un tas d'influences discutables ou enviables. Enfin, pour moi, bien sûr, on peut écouter de la musique sans savoir d'où elle vient, qui l'a produite et tout. C'est le propre du piratage, c'est le propre d'Internet. On peut s'en satisfaire. Après tout, on n'est pas obligé de savoir tout ce que j'évoque pour aimer de la musique. Mais pour moi, surtout quand il s'agit de faire connaître une musique qui, avant que j'intervienne, n'était absolument pas présente sur le marché international, c'est sûrement une des dernières musiques d'Afrique à être sortie de ce continent. Pour moi, c'est doublement important de dire dans quel contexte, selon quelle tradition, elle existe, elle se développe, elle s'est développée, ou elle a chuté, ou elle... Pour moi, c'est indispensable. Je cite souvent une phrase qui n'a rien à voir. C'est « Son interprétation embellit le rêve. » On peut rêver, trouver son rêve magnifique. Mais si vous l'interprétez bien, le rêve est encore plus beau. Là, c'est un peu ça que je veux dire. La musique est magnifique, mais si vous expliquez quel est son contexte, dans quel contexte elle s'est développée, dans quelle histoire... Dans quelle société, pour moi, c'est plus de plaisir. Je suis assez.
En fait, ce que vous décrivez là, c'est pas seulement le travail d'un mélomane ou d'un music lover. On est proche de l'ethnographie quelque part. Il y a aussi l'étude anthropologique, sociologique de ces populations-là, du contexte, de l'époque, dans quel sillon humain et plus largement, on dépasse les frontières de la musique, en fait.
Ben, c'est absolument ce que j'essaie de faire, sauf que je la ramène pas en disant je suis chercheur, je suis anthropologue, tout le monde est anthropologue aujourd'hui. Moi, je préfère un exemple. Vous connaissez certainement la collection Okora, que la maison de la radio publie depuis plusieurs siècles. Enfin, c'est une bibliothèque musicale, si j'ose dire, extraordinaire. Mais quand vous lisez les livrets, ils vous tombent des mains. Moi, j'essaie de produire des livrets qui soient excitants, qui vous allument, qui soient un peu rock'n'roll, mais qui soient aussi informatifs, qu'il n'y ait rien à leur reprocher, qu'aucun universitaire, aucun chercheur peut dire « Ah, ça, c'est pas juste, c'est pas vrai ». Non, je suis aussi rigoureux qu'eux, mais simplement, je pense qu'on peut écrire sans avoir un parapluie dans le cul, quoi.
قلب هونش ايه قرش انده وزانا وبيت شرق فون ايه انده تواتي زانا بلس لسوك اندش ايه اند انت راس بيت فلاقو تنبر ايه مزدو تدك بيت ستموشي Mochi asen kon nabse الله شي فكري دني لك دمش عفرن ما دنقاي اي تلم كنش ما تنش فرين لالم سات سجين جنا سات دارين ጮኛሽና ሄ ለዚህ ጫለም ትተሻ ስትሞቺ አዘንኮኝ ነብስሽ ደስደገና ሆኝ ስትሞቺ አዘንኮኝ ነብስሽ ደስደገና ሆኝ ተመለሽ ፍቅሬ እኔ ልግደምሽ አፈርና ድንጋይ አይችልም ጎነ ደስታዬና ባዘን ተለወጠች ብሞት ይሻል ነበር አንቺ ከምትሞች ያንቺ ሰርገነት ነው ልቤ መጫወጠና ጌጣትሽ ቀለበታ ቀረ እንደወደቀና ስትሞቺ ስትሞቺ አዘንኮኝ ነብስሽ ደስደገና ሆኝ ተመለሽ ፍቅሬ እኔ ልግደምሽ አፈርና ድንጋይ አይችልም ጎነ
Samuel Bellé sur Les Bruits du Monde, un artiste qui en dit assez long sur les influences cosmopolites qui filtraient dans les milieux musicaux éthiopiens. Il est extrait de Swinging Addis, clin d'œil évident, Swinging London, 8e volume des Éthiopiques chez Bouddha Musique.
Les Bruits du Monde, par Principe Actif.
C'est la bande-son d'un vent de liberté, ces Éthiopiques, quand même, avec un mélange assez inédit. Alors, il y a un paradoxe, moi, qui m'a séduit dès le départ, hein, en écoutant Mahmoud Ahmed pour la première fois. C'est ce mélange, ce croisement de culture entre la culture noire américaine, c'est-à-dire le rock'n'roll, la soul music, le rhythm and blues, venu des États-Unis, avec une identité très très forte de la musique éthiopienne à l'intérieur de ça.
Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Éthiopiens avaient assez peu accès aux musiques qui se faisaient dans le reste du monde, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, mais un peu accès quand même. Il y avait quand même des fous furieux, comme Ama Echete, qui a créé le premier label indépendant. En hors la loi, c'était interdit. Il y avait un monopole d'importation des disques et de production des disques en Éthiopie. C'était réservé à l'État. Donc imaginez, c'était pas eux qui allaient faire des choses extrêmement créatives. Dès qu'ils ont commencé, enfin les pionniers, aussi bien musiciens que producteurs, qui ont mis la main sur ce filon soul, rock'n'roll, funky, tout ça, ça a explosé tout de suite en Éthiopie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai écrit à plusieurs reprises. C'est un peu la bande son de la fin du régime impérial, quoi. C'est la fin du régime d'Haïlé Selassie. Tous ces gens-là en avaient marre, comme nous. Enfin, je veux dire, ma génération, c'est ma génération en fait. On est des baby boomers, des gens qui sont nés après guerre. On en avait soupé des crooners, ou en France, on en avait soupé des Edith Piaf, de l'accordéon, de ces trucs-là. Et on aimait que Elvis Presley, Little Richard, et ces choses-là. Il s'est passé la même chose pour l'Éthiopie. C'est la première fois que l'Éthiopie était, comment dire, in tune, était accordée au reste du monde. C'est la génération des baby-boomers sur la planète entière. Il y a beaucoup de comparaisons à ce propos à faire, par exemple, entre l'Éthiopie, pays obscur, inconnu, plein de clichés pour nous autres. Et par exemple, au Cambodge, où il s'est passé la même chose, la même révolution générationnelle, le même intérêt pour les musiques venues d'ailleurs, et en particulier les musiques black américaines. Et aussi, tout d'un coup, un terrible tsunami politique, révolution, des tueurs au pouvoir, et donc qui arrête tout ça. Donc, c'est un petit peu le sort terrible qui est arrivé à la musique éthiopienne avec ses remous politiques. Ça a presque du jour au lendemain tué un mouvement qui était et qui demandait non seulement une révolution musicale, mais aussi une révolution sociale.
Les bruits du monde, par principe actif.
Est-ce que la musique, est-ce qu'elle est moins subversive aujourd'hui en Éthiopie qu'elle l'était dans les années 60 et 70?
Donc, il y a deux choses pour entendre subversif. Il y a d'abord le contenu des paroles. Proteste song ou pas, même s'il y a une grande tradition de proteste song en Éthiopie, c'est pas à part ça que les artistes éthiopiens brillent tellement aujourd'hui, on peut dire. Et le deuxième sens, c'est, est-ce que c'est subversif musicalement? Est-ce que les innovations, la créativité, peut se comparer à celle d'il y a 50 ans? J'ai bien peur que non, personnellement. Je suis assez critique et je me fais beaucoup de... Pas d'ennemis, mais enfin des gens qui aiment pas trop quand je raconte que la musique éthiopienne d'aujourd'hui est pas terrible. Et que même, quelquefois, tous les ce qu'ils appellent les Ferenj, c'est-à-dire les étrangers, les blancs, les non-éthiopiens, qui jouent aujourd'hui de la musique éthiopienne n'importe où, en Australie, au Brésil, dans toute l'Europe, eux sont presque meilleurs, que à mon goût, que les musiciens éthiopiens d'aujourd'hui. Il y a des exceptions, hein. Je veux pas dire que il n'y a pas de chanteurs ou de chanteuses éthiopiens qui écrivent des protest songs. Il y en a. Surtout que dans ce pays, il y a une tradition du double sens. Donc ça permet de dire beaucoup de choses en faisant semblant de parler d'histoire d'amour, par exemple.
Un extrait de Akale Wube, un groupe de Français parti jouer en Éthiopie, qui enregistre entre Paris et Addis Abeba. Akale Wube, et le morceau, alors je vais essayer de vous le prononcer, mais je prends des risques, Ayalem Tedengo, et sur un album éponyme, Akale Wube, sorti en 2012, si je ne dis pas de bêtises.
Si j'ai bien compris et bien calculé, en 2017, ça fera 20 ans d'Éthiopique, c'est ça?
Absolument, et j'arrête.
Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais alors qu'est-ce que vous allez faire ensuite?
Ah, je vais continuer de bosser, parce que j'ai plein de projets. Mais je vais arrêter éthiopique parce que ça fera 20 ans, que c'est un marathon, hein, que c'est pas facile d'être un marathonien. Je pense qu'avoir publié plus de 30 volumes d'une musique inconnue, ça commence à faire sens, sérieusement, que c'est à d'autres de s'y frotter. Qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais m'intéresser un petit peu plus à l'histoire de ce pays, à travers sa musique, évidemment. Et aussi, il y a plusieurs types de projets. Il y a deux projets illisibles, qui sont une bibliographie des musiques d'Éthiopie, c'est-à-dire tout ce qui a été publié, écrit sur les musiques d'Éthiopie. Ça n'existe pas. Bon, ça va intéresser 50 personnes, mais pour moi, c'est un must de devoir le faire. Et aussi, je vais faire une discographie des musiques d'Éthiopie. Tout ce qui a été enregistré en Éthiopie depuis la fin du 19e siècle, 1897 exactement. Donc les 78 tours, les bandes, les choses inédites, jusqu'au vinyle des années 60 et 70, avec pochette, recto verso, publié, les ronds centrales, enfin, un beau livre, quoi, mais beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est un côté, disons, recherche et information. Ça va pas être des best-sellers, hein, je pense, hein. Mais pour moi, c'est un must. Et d'un autre côté, je veux faire des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus subjectives, même si ça a à voir avec l'histoire des musiques d'Éthiopie, ça va être un livre, je pense, d'humeur, ou un documentaire d'humeur. Je suis pas sûr que le livre ait un grand avenir, même si je suis d'une génération du livre, au sens papier, hein, je veux dire pas religieux. Malgré tout, je pense que la vidéo, le film sont des médias beaucoup plus contemporains, quoi, et qui demandent certainement moins d'efforts que l'écriture. Mais donc, ce sera d'humeur, ma vision de l'Éthiopie, du monde musical d'Éthiopie, pour le meilleur et pour le pire, et pas que des choses sympas.
C'est ainsi que se termine ou presque ce nouvel opus des Bruits du Monde. Merci évidemment pour votre écoute attentive. Merci à vous, Lord Lorenzo.
Merci, Lord Pignon.
Évidemment, on remercie Francis Falsetto, vous l'avez compris, fondateur, créateur de ces compilations, les Éthiopiques, de nous avoir accueillis chez lui hier soir. On s'est un petit peu empressé de faire ce montage dans la nuit. Enfin voilà, c'était assez rocambolesque. Et on le remercie surtout d'avoir joué le jeu, répondu à nos questions de novices, ou presque, dans le domaine des musiques éthiopiennes. Nous, on se retrouve dans deux semaines, toujours le mercredi, toujours à 20h. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver nos balados diffusion sur le site de la radio Principe Actif ou sur le Facebook Les Bruits du Monde. D'ailleurs, on est plutôt réactif au Facebook davantage qu'au site internet, mais voilà, on essaye de jouer sur les deux tableaux, hein, c'est pas évident. Et puis on sera également en rediffusion sur la radio HDR, nos amis de Rouen. La date reste encore secrète, hein, elle reste encore indéterminée, mais vous en saurez plus dès que nous-mêmes nous en saurons davantage. Lord Lorenzo, c'était évidemment un plaisir d'être ensemble encore ce soir.
D'être ensemble et puis ensemble pour programmer des artistes non affranchis qui ne rentrent pas dans la boîte que l'industrie a dessinée pour eux. On préfère cela aux artistes de la culture pop. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous avec cette musique très particulière qu'est celle de l'Éthiopie, ce mélange irrésistible entre la musique anglo-saxonne et les traditions abyssinales. Bonne soirée à tous, merci de votre écoute.
On va se quitter avec quand même un dernier extrait de notre échange hier soir avec Francis Falsetto. Il nous faisait part d'un son qu'il avait reçu très 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 récemment, des vieilles archives. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, on s'écoute ça et puis nous on se retrouve dans deux semaines. Merci d'avoir été à l'écoute des Bruits du Monde sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR.
Ça bouge dans les aigus.
Il y a un travail de mixage à faire. Il y a un travail de mixage à faire.
Ah, en plus, c'est mono. Soit t'as 20 souffleurs au moins.
Mais ça me met en joie, quoi.
maximum en plus, tu vois, il y a très peu de signal. Ça a été copié dans une condition acrobatique, alors t'as une cassette pourrie. Mais quand tu trouves ça, même pourri, tu prends quoi. Tu prends même des gens pour l'émission, un morceau quoi. Oui, je vous le donne celui-là. Mais bon, j'ai pas besoin d'en passer. Je vois, il est pas très long. À l'époque, il faisait court. Aujourd'hui, ils font 6 minutes, 7 minutes. Ils font chez le monde. Et quand je pense, j'ai publié dans un Topic 9 un morceau d'Alemagne qui fait 1.30 ou 1.40. Sur les mecs, en 1.40, ils disaient tout. Quoi. Ouais. Mais non, aujourd'hui, ça vient du fait qu'ils utilisaient des cassettes. Ils n'avaient pas d'usine pour calibrer les cassettes. Des cassettes d'une heure, 10 chansons, 6 minutes. Et ça, il s'est perdu.
J'ai l'impression que la bande tourne un petit peu trop vite, hein.
C'est possible, je ne dis pas combien de restaurations j'ai dû faire à l'oreille en fermant les yeux, parce que je connais bien la voix du chanteur, plus vite, moins vite. En particulier ce morceau d'Ali Mayou, là, qui doit être le troisième des Topic 9, qui fait une 40. Impossible de. J'avais pas le 45 tours, impossible de trouver quelqu'un qui veuille me traiter ou qui l'est simplement. Et je me suis rendu compte que j'avais une cassette pourrie achetée dans le sud de l'Éthiopie il y a 25 ans. Un disque qui gratte, qui tourne pas à la bonne vitesse, enregistré par une cassette pourrie qui tourne pas à la bonne vitesse. Chef d'œuvre, quoi. Il y en a 90 minutes comme ça. Voilà. Il y a des morceaux. Il y a des morceaux, mais speedissimes, quoi. C'est proto-punk, parce que ça date de 70, ça. Hall Lota, je crois que c'est de 69 décembre. Tu vois, donc. Je dois avoir un ou deux morceaux, mais c'est hibou, c'est pré-punk. Enfin, proto-punk, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était. J'aurais souvent dit, putain, pourquoi il n'y a pas de mouvement punk chez vous? Alors, ça veut dire quoi? J'aurais expliqué. Si vous en avez marre, vous jouez deux accords, mais vous foutez le bordel, et finalement, on vous achètera à la fin. Quoi.